Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 8 mars 2024 depuis Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Je suis Mohamed Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui. Il est 7 heures temps universel. Voici le sommaire.
It doesn't make news, but news in 1,000 cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told.
Cela ne fait pas les titres des journaux, mais dans des milliers de villes et de villages, le peuple américain est en train d'écrire l'histoire du plus grand rebond jamais raconté, a déclaré hier soir le président Joe Biden lors de son discours sur l'état de l'Union.
Il y a eu une certaine amélioration, n'est-ce pas, dans l'économie américaine, du moins pour certains. Et donc, M. Biden a le droit de...
Regard croisé et décryptage du discours du 46e président américain sur l'état de l'Union. C'est dans la partie magazine, en seconde partie de cette édition du Monde aujourd'hui. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura finalement lieu le 24 mars. Le Conseil constitutionnel a accepté la nouvelle date proposée par le président Macky Sall. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Eric Manirakiza et l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouédraogo. Mais pour commencer, le journal. Le président Joe Biden a prononcé hier devant les deux chambres du Congrès un discours sur l'état de l'Union. Ce discours est un événement annuel où le président américain, chef du pouvoir exécutif, développe le cadre général de sa politique. Monsieur Biden a vanté un avenir plein de promesses face à la rancœur incarnée selon lui par Donald Trump. Nani Talani fait le point.
Joe Biden s'en est pris à son rival Donald Trump dès les premières minutes de son discours, l'accusant de se soumettre à Vladimir Poutine et affirmant que la liberté et la démocratie étaient attaquées en Amérique. Il a assuré que lui ne plierait jamais devant le président russe. Depuis le président Lincoln et la guerre de sécession, jamais notre liberté et démocratie n'ont été attaquées dans notre pays comme elles le sont aujourd'hui, a-t-il ajouté. Face à la rhétorique du déclin scandée par Donald Trump, Joe Biden a assuré que l'Amérique connaissait sous sa présidence le plus grand rebond de son histoire après la pandémie de COVID-19 qui avait mis à genoux la première économie mondiale. Le locataire de la Maison-Blanche a aussi fustigé l'annulation de la garantie fédérale à l'avortement, l'un des grands thèmes de la campagne, promettant de rétablir cette protection si les Américains élisaient un Congrès favorable au droit de choisir. Le président démocrate a également annoncé devant le Congrès qu'il avait ordonné à l'armée américaine d'établir un port artificiel à Gaza pour acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé et a dit vouloir un cessez-le-feu immédiat de 6 semaines.
Analyse et discours du président sur l'état de l'Union, c'est dans une dizaine de minutes dans la partie magazine. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura finalement lieu le 24 mars. Le Conseil constitutionnel a accepté la nouvelle date proposée par le président Macky Sall. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
Pour le Conseil constitutionnel, l'exécutif a remédié à la situation en convoquant l'élection pour le 24 mars. Le premier tour aura lieu avant la fin du mandat de Macky Sall, le 2 avril. La date du second tour n'a pas été annoncée. Certains habitants de Dakar ont exprimé leur soulagement après des semaines d'incertitude. La période de campagne sera plus courte que les 21 jours prescrits par le code électoral. Lundi, Macky Sall avait demandé au Conseil constitutionnel de donner son avis sur les recommandations issues du dialogue national qui avait proposé la tenue des élections le 2 juin. Pour tenter de sortir de la crise, Macky Sall a aussi proposé un projet de loi d'amnistie. Le Sénégal a connu des troubles meurtriers dans un bras de fer entre l'opposant Ousmane Sonko en prison et l'État. Le numéro 2 de son parti dissous, Bassirou Diomaye Faye, est aussi en prison, mais a été autorisé à se présenter dans la course à la présidence. L'Assemblée nationale a adopté mercredi une loi d'amnistie, mais il n'y a aucune indication sur une date pour leur éventuelle libération.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 280 élèves lors d'une attaque contre une école de Kuriga dans le nord-ouest, ont affirmé un enseignant et un habitant. Selon Sani Abdoulaye, l'un des enseignants de l'école JSS Kuriga dans le district de Shikun, le personnel a réussi à s'échapper avec de nombreux élèves alors que les hommes armés tiraient en l'air. Les autorités locales de l'état de Kaduna ont confirmé l'enlèvement jeudi, sans toutefois préciser le nombre d'élèves kidnappés. En cours d'évaluation selon elle. Les enlèvements de masse contre rançon sont un problème majeur et touchent tout le pays. Ces dernières années, des bandes criminelles ont attaqué à plusieurs reprises des écoles, principalement dans les zones rurales. Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouédraogo, a rejoint son domicile hier matin, 2 mois après sa disparition. Le 28 janvier dernier, il avait été enlevé par des individus disant appartenir à la police nationale, selon son parti politique. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'ancien chef de la diplomatie burkinabé a regagné son domicile jeudi matin, selon des sources proches de son entourage. Il aura passé un peu plus de 2 mois au front. Sa réquisition en début novembre 2023, alors qu'il était hors du pays, Ablassé Ouédraogo, rentré en décembre d'un voyage, a été interpellé à son domicile pour rejoindre le front. Il n'avait donné aucun signe de vie jusqu'à mi-février à travers des images largement partagées via les réseaux sociaux où on le voyait habillé en tenue militaire, Kalachnikov en main. Son parti avait condamné ces images. Il avait qualifié de fait regrettable et exigeant alors sa libération immédiate. Ablassé est libre dans le même temps. Le tribunal administratif a ordonné à l'État la libération immédiate de l'avocat Guy Hervé Kam il y a un peu plus d'un mois, mais pour le moment, aucune réaction des autorités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, une femme de 33 ans a été inculpée hier pour enlèvement et traite d'êtres humains après la mystérieuse disparition de sa fille de 6 ans. Les médias locaux évoquent la piste d'une vente de l'enfant à un guérisseur. Rosine Mounezero.
Jocelyn Wetcherlin Smith, 6 ans, a disparu en février à Saldanha Bay, petite ville de pêcheurs au nord de la ville du Cap. D'intenses recherches sont toujours menées par la police et une armée de volontaires pour tenter de retrouver la fillette. L'affaire a connu un rebondissement mercredi avec l'arrestation de la mère et son compagnon. Ils ont été présentés à un juge hier avec 2 autres hommes. Ils ont été inculpés pour traite d'êtres humains à des fins d'exploitation et enlèvement, a indiqué le parquet. Les 4 suspects ont été placés en détention. Selon des sources policières, la mère et ses complices auraient vendu la fillette à un guérisseur traditionnel pour 20 000 rands, un peu moins de 1 000 euros. En Afrique du Sud, ces guérisseurs, appelés Sangoma en Zoulou, jouent parfois le rôle de médecin et conseillés par la pratique de rituels. La prochaine audience est prévue le 13 mars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, les autorités ont prolongé 1 mois l'état d'urgence dans la capitale Port-au-Prince. Elles tentent de faire face à une poussée de violence des gangs armés. Chimel Gandounou.
Le journal officiel a publié un arrêté instaurant l'état d'urgence sur toute l'étendue du département de l'Ouest qui comprend Port-au-Prince pour une période 1 mois. Un nouveau couvre-feu nocturne a également été décrété jusqu'à lundi de 18h à 5h. Un premier état d'urgence et un couvre-feu difficilement applicable ont déjà été déclarés dimanche après l'attaque de prisons qui ont provoqué l'évasion de milliers de détenus. Depuis le début des attaques coordonnées des gangs, 10 bâtiments de police ont été détruits et 2 prisons vidées de leurs détenus. Un influent chef de gang, Jimmy Cherizier alias Barbecue, a assuré mardi que si le premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas, le pays allait tout droit vers une sanglante guerre civile. Ariel Henry, qui revenait du Kenya, se trouvait hier encore à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné en octobre son aval pour l'envoi d'une mission sécuritaire menée par le Kenya qui veut dépêcher 1 000 policiers. Mais son déploiement est retardé par la justice kenyane et aucune date n'est avancée pour l'arrivée de cette mission.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un exercice d'artillerie à grande échelle au moment où les États-Unis et la Corée du Sud mènent des manœuvres conjointes, ont rapporté ce vendredi des médias d'État. Les exercices à tir réel de jeudi visaient à accroître la préparation au combat et la capacité de guerre réelle, a rapporté l'agence de presse d'État KCNA. Pyongyang a menacé mardi Séoul et Washington de payer le prix fort pour leurs exercices militaires conjoints, connus sous le nom de bouclier de la liberté. La Corée du Nord condamne depuis longtemps ces exercices qu'elle considère comme des répétitions en vue d'une invasion. Séoul a déclaré mardi que son armée était parfaitement préparée à d'éventuelles provocations de la Corée du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un condensé des nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Eric Manirakiza.
Au moins 53% des dirigeants d'entreprises africains citent l'Union européenne comme le premier partenaire commercial étranger qu'ils souhaiteraient avoir à l'horizon 2050, loin devant la Chine, les États-Unis et la Russie, indique une enquête de l'Institut Choiseul, un think tank français dédié à l'analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociétaux. Près de 2000 personnes d'une cinquantaine de pays planchent jeudi à Paris sur la décarbonation du secteur du bâtiment et les moyens d'adapter la construction au réchauffement du climat. Les participants sont des architectes industriels des matériaux de construction, promoteurs immobiliers, financiers, ingénieurs. Africains comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Afrique du Sud sont représentés à ce forum. Le secteur du bâtiment est aujourd'hui responsable de 21% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 37% des émissions de CO2. Les entreprises du secteur privé aux États-Unis ont créé 140 000 emplois en février, soit plus qu'en janvier, mais moins qu'attendu, et la hausse des salaires s'est accélérée pour les personnes qui ont changé d'emploi, une première depuis novembre 2022, selon l'enquête mensuelle ADP Stanford Lab publiée mercredi.
Et maintenant, la page sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Le noble art pour commencer, Francis Ngannou fait face ce soir à Anthony Joshua.
Oui, 4 mois après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA poursuit son chemin dans la boxe et remet les gants pour défier un autre poids lourd des rings, le Britannique Anthony Joshua. Ce vendredi, en Arabie Saoudite, le Camerounais de 37 ans avait choqué le monde des sports de combat pour ses débuts en boxe anglaise le 29 octobre dernier, en envoyant Tyson Fury champion WBC des lourds et grandissime favori au tapis au troisième round. Francis Ngannou se dit confiant.
Je crois en moi, ce qui ne veut pas dire que je contrôle le résultat. Je crois au fait que je vais faire de mon mieux et que je ne peux pas contrôler le résultat et que, quel qu'il soit, je l'accepterai. Mais je crois en ma détermination, en mon dévouement. Je crois au travail que je fais pour obtenir ce que je veux. Chaque fois que je disposerai d'une ouverture, je la saisirai. Alors ne vous inquiétez pas de la clé ou de l'indice. Je ne laisserai aucune pierre non retournée et aucune opportunité non explorée.
Après Tyson Fury, c'est donc Anthony Joshua, ancien détenteur des titres WBA, IBF et WBO de la catégorie, qui a accepté le défi Ngannou et le deal lucratif qui vient avec. Joshua reste sur une victoire convaincante par arrêt de l'arbitre contre le Suédois Otto Wallin en décembre dernier, sa troisième victoire de 2023.
Nous ne regardons pas au-delà de ce combat. C'est mon objectif principal. Les encouragements et tout le reste, c'est juste la victoire, c'est tout. Je me concentre sur mon plan de jeu et sur ce que je vais faire. Le meilleur gagne toujours. Ce n'est pas sorcier de dire que le meilleur gagne toujours. Mais l'une des principales choses que j'attends avec impatience, c'est de montrer à quel point je suis bon.
Le boxeur britannique Anthony Joshua, avec cette deuxième incursion sur un ring, Francis Ngannou poursuit donc son chemin en boxe anglaise, la discipline qui le faisait rêver, avant qu'il ne se consacre aux arts martiaux mixtes.
En arts martiaux mixtes, le premier événement de la PFL Afrique annoncé pour avril 2025.
L'annonce a été faite par Don Davis, le fondateur de la Ligue d'arts martiaux mixtes, ajoutant « Nous allons apporter notre vision et notre capacité à développer les futurs champions du continent. Les athlètes n'auront pas à quitter l'Afrique pour se mesurer à des concurrents de haut niveau, bénéficier d'une grande plateforme médiatique » et être rémunéré en tant que professionnel, a expliqué Murray. Fondée il y a 6 ans, la PFL, Professional Fighter League, a pris de l'ampleur depuis qu'elle a recruté le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l'UFC. Ngannou est aussi membre du conseil consultatif de l'organisation pour représenter les intérêts des combattants. La Ligue l'a également nommé président de sa branche Afrique.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le président Joe Biden a prononcé hier devant les deux chambres du Congrès un discours sur l'état de l'Union. Voici un extrait de l'émission spéciale que j'ai réalisée avec Timothée Donamaï et nos invités qui ont analysé le discours du président Biden. Le départ de s'attaquer à Donald Trump, est-ce que c'est parce que nous sommes à une année électorale? Est-ce que ça cadre avec une certaine vision du président Biden de l'Amérique, des États-Unis d'aujourd'hui?
Alors, ça cadre avec la vision des États-Unis. Il était important qu'il rappelle aux électeurs les événements du 6 janvier qui ont justement porté atteinte à la démocratie américaine et dont l'ancien président Trump était l'inspirateur. Donc, il a voulu vraiment établir cette espèce de contraste qu'il y a entre lui, qui sauvegarde la démocratie, et Trump, qui a pratiquement failli la détruire le 6 janvier.
Alors, Marilyn, quand il accuse Donald Trump, son prédécesseur, de se soumettre à Vladimir Poutine, à quoi fait-il allusion selon vous?
Eh bien, il s'agit surtout de la part des membres du Congrès côté républicain de ne pas vouloir signer cette loi, de ne pas vouloir cautionner cette loi qui permettrait au Congrès américain de soutenir financièrement l'Ukraine.
Il a dit notamment faites ce que vous voulez, parlant de Donald Trump en rapport avec Vladimir Poutine. Alors, il y a donc, selon le président américain, Donald Trump, qui semble sinon obséquieux vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais il a également évoqué de manière subliminale le débat sur son âge, en disant qu'il en se montrant vigoureux dès le départ, en entrant dans la salle et tout cela. Est-ce que Biden, aujourd'hui, vous pensez que son âge peut constituer un handicap? Il faut dire que les élections, c'est en novembre. Nous ne sommes qu'en mars. Il y a encore plusieurs mois. Est-ce que, au fur et à mesure qu'on avance vers l'élection, est-ce que vous pensez que les gens pourraient douter des capacités du président Biden à assumer ses fonctions de président des États-Unis?
Écoutez, il y a aux États-Unis des centaines de professeurs d'université qui ont dans les 90 ans à peu près et qui avancent vers la centaine hein, et qui prennent leur avion, donnent des cours, etc. Je prends l'exemple de mon propre oncle, le docteur Edwin Nichols, qui prend son avion, qui donne des cours, etc. Vous me direz, ce n'est pas la même chose que de diriger un pays. Mais de plus en plus, vous avez des nonagénaires et même des centenaires qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui font des choses extraordinaires. Donc, on dit souvent que ceux qui ont maintenant 60 ans, c'est comme les 40 ans d'il y a hier. Ceux qui ont, je ne sais pas, 80 ans, ce sont les soixantenaires d'hier. Donc, il n'y a pas d'âge, si vous voulez. Il y a seulement la vigueur, il y a seulement la façon dont la personne se comporte. Il y a aussi les idées que la personne véhicule. Et s'agit-il d'idées vieilles ou s'agit-il d'idées nouvelles? S'agit-il d'idées qui promeuvent le progrès? C'est surtout de ça qu'il s'agit et non de l'âge. Et si on parle de l'âge, eh bien, son opposant a pratiquement le même âge. Il n'y a que 3 ans qui les séparent.
Alors, Mouamadou, on me signale que nous avons à nouveau l'ambassadeur Herman Cohen et le professeur Jean-Germain Gros de l'Université du Missouri à Saint-Louis. Professeur Gros, nous avions précédemment dit qu'on s'attendait en fait à ce que le président Biden, en cette année électorale, fasse le bilan de ce qu'il a accompli durant ses années à la Maison-Blanche. Il a parlé de 50 millions d'emplois créés. Il a aussi évoqué des chiffres de chômage les plus bas des 50 dernières années. Est-ce qu'il a été exhaustif dans ce bilan de son mandat?
Bon, oui, je crois qu'il a bien fait de parler de ces statistiques. Bon, est-ce qu'un président américain est directement responsable du nombre d'emplois créés dans une économie essentiellement privée? Bon, c'est pas évident, mais si les choses étaient pires, on l'aurait blâmé. Alors il est tout à fait juste qu'il accepte le crédit également. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Il y a eu une certaine amélioration, n'est-ce pas, dans l'économie américaine, du moins pour certains. Et donc, M. Biden a le droit de se féliciter, quoi.
Ambassadeur Cohen, le président Biden a notamment dit, depuis le président Lincoln et la guerre de sécession, jamais notre liberté et démocratie n'ont été attaquées comme elles le sont aujourd'hui. Ambassadeur Cohen, à quoi est-ce qu'il fait allusion?
Oh, je crois qu'il dit que les gens sont très libres maintenant de parler, d'acheter ce qu'ils veulent, d'investir où ils veulent. Il y a très peu de limites sur les actions des individuels. Et je crois qu'il a raison de dire ça.
Il dit notamment que la liberté et la démocratie sont attaquées.
Oui, bien sûr, parce qu'il parle de son prédécesseur. Il n'a jamais mentionné le nom de Donald Trump, mais je crois qu'il a dit 7 ou 8 fois « mon prédécesseur ». Et le prédécesseur a dit « si je suis élu, je vais faire un dictateur ». Il fait allusion à ça. Il dit vous faites passer à la présidence mon prédécesseur, il va faire un dictateur. C'est ça. Il veut dire que nous allons perdre notre démocratie si Trump est élu.
Et ambassadeur Cohen, le président Biden a évoqué les événements du 6 janvier, l'assaut sur le Congrès.
Oui, le 6 janvier, c'est-à-dire le Hamas a attaqué Israël, notre meilleur ami de le Moyen-Orient, et il a dit nous avons eu des indications qu'il devait faire ça, mais nous n'avons pas écouté. Il a dit que c'était une faillite de nos services de renseignement.
Jean-Germain Gros, le président a annoncé devant le Congrès qu'il avait ordonné à l'armée américaine d'établir un port artificiel à Gaza pour acheminer davantage l'aide humanitaire à Gaza. C'est une question, évidemment, l'acheminement de l'aide humanitaire qui avait déjà été évoqué par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Joe Biden, qui revient sur cette question, selon vous, il parle également d'une solution à deux États. Comment est-ce que vous analysez la vision du président Biden par rapport à la résolution du conflit entre le Hamas et Israël?
La question de la résolution du problème palestinien est claire. Il doit y avoir deux États qui sont libres et dont la sécurité n'est pas menacée. Mais je signale que M. Netanyahou n'est pas d'accord avec cette politique. Donc il y a là un désaccord entre la politique étrangère américaine telle prononcée par M. Biden et la politique étrangère de M. Netanyahou. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde alors qu'ils sont alliés. Alors là, c'est une contradiction.
Mais Marilyn Sofocle, le président Biden annonce qu'il travaille à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat de 6 semaines. Vous pensez que c'est réaliste?
C'est faisable. Il faudrait absolument que toutes les parties mettent du leur et surtout qu'il y ait un changement de la part de comme disait notre invité, un changement de la part de Netanyahou, qui lui ne peut pas se passer des États-Unis en tant qu'allié. Et bien qu'on a l'impression que dans son discours et dans sa manière de faire, que c'est lui qui dicte, que c'est Netanyahou qui dicte. Il veut donner l'impression que c'est lui qui dicte. Mais en fait, il n'y a pas de commune mesure entre la puissance des États-Unis et celle d'Israël. Et celle d'Israël n'est conditionnée que par l'aide des États-Unis. Il y a là une vision peut-être un peu courte de la part de Netanyahou dans sa façon de dans ses relations avec les États-Unis.
Professeur Sefocle, en ce mois de la femme, le président Biden a évoqué la situation des femmes aux États-Unis, que ce soit du point de vue de la santé en général et de la santé reproductive. Est-ce qu'il a fait un bon travail dans ce sens?
Absolument, absolument. Il a beaucoup insisté et il a d'ailleurs marqué le contraste qui existe entre lui et l'ancien président Trump, qui est aussi républicain de façon générale, qui, eux, veulent absolument éliminer Roe v. Wade, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner aux femmes l'accès à l'avortement. Et donc, le président Biden leur a clairement intimé que ce n'est pas du tout, que c'est tout à fait à l'inverse de ce que les démocrates veulent accomplir dans le pays. Ils veulent le retour de Roe v. Wade, c'est-à-dire le retour de l'accès à l'avortement. Et aussi, il a mis l'accent sur les violences faites aux femmes et le fait qu'il a mis en place tout un projet de loi pour cesser ce genre de choses. Et que malheureusement, ces projets de loi ont été stoppés par les républicains.
Alors, le président Biden, par rapport à cette question, Eamon Cohen, ambassadeur, il dit que s'il est élu, s'il a le soutien du Congrès, il rétablira le droit à l'avortement. Quel est votre avis là-dessus?
Ça, c'est très important, parce que le droit à l'avortement est favorisé par toutes les femmes des États-Unis. Ça ne veut pas dire que chaque femme voudrait avoir un avortement ou accepte d'avoir un avortement, mais les femmes disent il faut pas réglementer nos corps. C'est nous qui allons décider ce qu'on va faire avec nos corps. Et si Trump est contre l'avortement et Biden a dit je suis pour la liberté de l'avortement, il va gagner l'élection facilement. Il ne peut pas perdre parce que toutes les femmes vont voter pour lui.
Alors, ambassadeur Cohen, justement, Roe v. Wade était une décision judiciaire, mais comment le président Biden s'y prendra-t-il pour rétablir la liberté d'avortement aux États-Unis?
Il va demander au Congrès de voter la loi. Oui, Roe v. Wade a dit, quand Roe v. Wade a disparu, c'est-à-dire que les décisions sur l'avortement revenaient à chaque État. On ne peut pas avoir une politique où certains États interdisent l'avortement et d'autres États acceptent l'avortement. Il faut faire passer la loi, et Biden va le faire, que l'avortement sera la décision de chaque femme individuellement. Et avec cette loi, toutes les femmes vont voter pour lui. C'est facile à prédire.
Alors, Jean-Germain Gros, le président Biden a abordé la question migratoire. Il a notamment déclaré qu'il ne diaboliserait pas les migrants comme l'a fait Donald Trump. Il faut dire que l'immigration est un sujet crucial aux États-Unis, davantage en cette année électorale. Comment est-ce que vous avez trouvé la posture du président Biden par rapport à cette question de l'immigration, d'immigration?
Bon, je crois que c'était une posture assez raisonnable et balancée. D'un côté, il voulait apporter des réformes, mais de l'autre côté, il n'a pas voulu diaboliser les migrants ou les immigrants, car vous savez que une bonne partie de la base électorale des démocrates consiste des groupes minoritaires.
Merci d'avoir écouté cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Mfa, ainsi va le Monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.